Bonjour, j'ai écrit il y a 2 ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 8.
Tu sais quoi, Anita? Tu n'as qu'à leur dire qu'ils ont raison. Dis-leur que oui, je suis une sorcière, que oui, ma mère, ta grand-mère en était une, ma grand-mère à moi avant elle, et que ça se transmet de mère en fille.
Samedi soir. Inès ne parle pas, ce soir, au dîner. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup parlé de la journée. C'est une tactique. Elle ne boude pas, elle se punit. Enfin, elle fait semblant de se punir pour que ses parents voient qu'elle est consciente d'avoir fait une erreur. Qu'importe qu'ils sachent ce qu'elle considère comme une erreur. Clémence a pleuré par intermittence toute la journée, alors qu'ils sont allés à la plage et qu'ils ont mangé dans un restaurant très joli. La glace pour le dessert était énorme. Gilles et Catherine se sont beaucoup occupés de Clémence. Elle disait toujours qu'elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Elle se sentait très triste et ça la rendait encore plus triste de voir ses parents si concernés. Elle avait mal à la tête aussi, un peu. Catherine avait dit que peut-être on appellera le médecin demain, et Clémence avait de nouveau éclaté en sanglots. On surveillera aussi qu'elle n'ait pas de fièvre, avait tranché Gilles. Dans le tout, la tactique d'Inès passait un peu inaperçue, mais c'était pas plus mal. Elle avait pu profiter de la mer, du sable, du soleil doux et caressant. Le silence avait du bon, ça la reposait. Et grâce à Clémence, elle avait l'impression d'être bientôt invisible aux yeux de ses parents. Ils en oubliaient d'être énervés contre elle. Clémence ne pleure plus. Elle mange ses légumes sans faire d'histoire. Ça rassure tout le monde. Elle rigole même à une blague que lui fait Gilles, mais qu'Inès ne trouve plus drôle parce qu'elle est plus grande et qu'il lui a déjà faite tellement de fois. Après avoir aidé à débarrasser, Inès fait un bisou à sa sœur, puis à son père. Il lui semble stratégique d'aller se coucher la première, sans même regarder la télévision avec tout le monde, pour prouver sa pénitence. Quand elle embrasse sa mère, celle-ci lui dit
« Demain matin, on va chez Anita pour que tu lui présentes tes excuses. On en profitera pour prendre le pain. »
Mince. Inès avait pourtant cru en avoir fait assez aujourd'hui pour s'éviter ça demain. Dimanche. Anita se réveille tard aujourd'hui. Sa mère l'a laissé dormir son saoul. Elle ouvre les yeux sur le mobile au plafond, des oiseaux en origami qu'elle a réalisé elle-même, dont elle devine les formes dans la pénombre. Le mobile ne bouge absolument pas. La tête est lourde du sommeil prolongé, les pensées sont embrumées. Son corps rechigne à sortir de la chaleur un peu moite de la couette épaisse, et il lui faut faire un effort tout particulier pour réussir à s'extirper de son lit. Elle marche, pieds nus sur la moquette, jusqu'à la fenêtre. Il lui faut 8 pas, elle le sait. Il y a un coffre sous la fenêtre, mis là pour qu'Anita puisse y grimper pour l'ouvrir, ce qu'elle fait aisément. Le froid de la clenche dans sa petite main, les muscles qu'il faut convoquer pour la faire pivoter, et la grimace qui en résulte. Anita soupire une haleine chargée. La fenêtre ouverte avec quelques contorsions, c'est le tour des volets en bois sombre. Elle fait jouer le système de fermeture et pousse un grand coup le volet de gauche, puis celui de droite. Elle ne cherche pas à les coincer avec les 2 loquets fichés dans le mur extérieur. Elle sait qu'elle a de trop petits bras. Elle n'y arriverait pas. Parfois, quand il y a du vent, les volets lui reviennent en pleine figure. Mais ce matin, pas de vent. Des oiseaux bafouillent. Un frisson. Le ciel est gris pâle, chargé de la lumière du soleil que les nuages semblent absorber puis diffuser de manière homogène. Anita descend de son coffre puis sort de sa chambre doucement. Elle ne sait pas quelle heure il est, alors elle attend un peu dans le couloir immobile et se concentre sur les bruits. Le jet d'eau dans la douche et le tambourinement des gouttes sur les parois. Sa mère a dû venir jeter un coup d'œil dans la chambre avant d'aller se laver. Et Anita ne s'en est pas aperçue. Son ventre gargouille. J'ai faim. C'est la première pensée tout à fait claire qu'elle ait. Elle descend l'escalier de la maison, haute et étroite. À cet étage-ci, il y a sa chambre, la salle de bain et la buanderie. Au rez-de-chaussée, la cuisine, le salon, la chambre de sa mère, les toilettes. Au-dessous, la cave, au-dessus, le grenier, dont sa mère dit qu'il fera une belle grande chambre à Anita quand elle sera plus âgée. Ce qui fait à la fois envie et un peu peur à l'enfant. La petitesse de sa chambre actuelle la rassure. Et d'ailleurs, si un jour le grenier est transformé pour l'accueillir, qui donc habitera sa petite chambre? Qui sera assez petit pour y vivre?
Cet après-midi, on ira faire un tour à la foire de la ville moyenne à côté. Et on ira au cinéma et on prendra un goûter au restaurant de la galerie marchande,
a dit la mère d'Anita une fois revenue de sa douche, fraîche. Robe anthracite à large échancrure et manches courtes, col en chair, pantoufles aux pieds. D'ailleurs, Anita n'a pas mis les siennes, sa mère va les lui chercher. La petite les enfile en même temps qu'elle mange son bol de céréales sur le fauteuil devant la télé, absorbée et équilibriste. Pas une goutte à côté, Anita est une enfant à droite.
Ensuite, il faut aller faire sa toilette. Tu peux faire une toilette de chat, lui dit sa mère. Tu prendras un bain ce soir.
C'est comme lui faire un cadeau. Anita aime faire des toilettes de chat. Elle se brosse les dents mollement, la bouche grande ouverte. Le dentifrice coule sur le menton. L'odeur de fraise lui emplit le nez. Elle crache, se rince la bouche, crache à nouveau, deux fois. Juchée sur son marchepied, la porte de la salle de bain entre ouverte parce qu'elle est encore trop jeune pour s'y enfermer. Toutes ces choses qu'elle est encore trop petite pour faire. Elle fait jaillir l'eau du robinet et... le temps que la température soit idéale, rassemble sa masse de cheveux avec un gros élastique derrière sa nuque, puis s'asperge le visage à plusieurs reprises. Fermer le robinet, prendre du savon dans les mains, bien frotter le visage, recommencer. Anita a oublié de mettre une serviette à côté du lavabo. Elle descend du marchepied, les yeux mi-clos, se dirige à tâtons, attrape ce qu'elle pense être une serviette, s'y essuie, un éclat de rire la surprend. C'est la robe de sa mère. Elle est entrée sans qu'Anita s'en aperçoive. C'est une femme très discrète. Elle semble parfois passer à travers les murs. Alors qu'Anita et sa mère sortent de la maison haute et étroite en bordure de la route nationale, que le vent frais rosit déjà leurs joues, une voiture, belle berline grise, pas neuve mais très propre, s'avance dans l'allée. Joe a tendance à éviter toute rencontre à laquelle elle n'a pas pu se préparer.
Comme la voiture est engagée dans l'allée, qu'est-ce que c'est mal poli, se dit-elle, alors qu'il y a des zones de stationnement prévues le long des trottoirs.
La rencontre semble inévitable. Anita et Joe se figent sur le pas de leur porte, et l'enfant sent dans les jambes de sa mère qui sont très proches de son visage le tressaillement de la biche qui calcule ses probabilités à grande vitesse. La voiture s'arrête complètement. Le moteur cesse de tourner. Les portières s'ouvrent et Joe doit se retenir avec acharnement de se retourner, d'emporter son enfant à l'intérieur de la maison. Un nœud se serre au-dessus de son estomac, qui a pris le temps de s'entortiller lentement, voluptueusement, malignement depuis hier. Elle a l'envie folle, sauvage, enfantine, de rentrer dans sa tanière avec sa petite. Elle n'est pas une biche, mais une puma effrayée, fermée à double tour en feulant et non plus jamais sortir que par la porte de derrière. Creuser sous le grillage du jardin un passage secret vers la nationale. On sortirait se ravitailler le soir aux poubelles du supermarché. Elle a déjà vu des gens faire ça. On profiterait d'être entre chiens et loups. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a appris à être une femme raisonnable. La main d'Anita froisse le tissu de sa robe, encore humide à l'endroit où elle s'est essuyée. De la voiture sort une femme bien mise, pantalon fluide, chemisier et veste cintrée, cheveux courts, blonds, très abondants, la petite quarantaine, l'air sûr et le visage serein. C'est la bijoutière, celle qui est aussi conseillère municipale, Catherine Vaillant-Bénard, et dont on dit qu'elle a les dents qui raillent le parquet. Une jeune fille est à sa suite, qui doit avoir 2 ou 3 ans de plus qu'Anita. Tous les parents semblent utiliser leurs enfants comme étalon d'âge, taille, poids par rapport à la progéniture des autres. Les cheveux serrés dans une longue tresse qu'elle a ramenée sur son épaule, le visage plus allongé que celui de sa mère, mais la ressemblance est visible. Inès garde obstinément les yeux au sol et la bouche pincée. La femme et la jeune fille s'arrêtent devant la voiture. Les mères échangent un long regard d'incompréhension.
Que fait cette femme ici? Pourquoi cette femme reste-t-elle plantée devant sa porte?
« Bonjour, » dit la bijoutière.
« Bonjour, »
répond la femme aux prothèses.
« J'imagine que vous êtes au courant pour vendredi. »«
Oui. »«
Ma fille n'est pas étrangère à tout ça et elle a quelque chose à vous dire. »
Catherine passe sa main dans le dos de sa fille et la pousse fermement. Celle-ci fait un pas en avant, boudeur, prend une grande inspiration qui lui fait monter les épaules exhale en gonflant les joues. Lentement, elle lève son visage vers la femme et l'enfant devant leur porte. C'est comme si la jeune fille avait prévu, mis en scène tout ça. On ne voit plus qu'elle, au premier plan. Sa mère consulte son téléphone portable en espérant être discrète. La lumière que les nuages fins diluent est faite pour sa peau, dont la blancheur ressort sur le gris flou environnant. Il n'y a pas de circulation sur la nationale, il n'y a que le bruit léger du vent. Les yeux de la jeune fille brillent d'une colère intense, flamboyante. Elle les avait gardés rivés sur le sol pour que personne n'ait le temps de s'habituer à leur feu. Sa bouche est déformée en un rictus à la fois ridicule et abominable qui dit
« Je pense l'inverse de tout ce que je vais dire et ceci n'est que le début de la guerre. » C'en est la déclaration.
Anita en tremble et voit bien que la bijoutière n'a pas conscience de ce qui se passe. Elle n'a pas dû croiser les yeux de sa fille de la matinée. Anita se précipite vers Inès en criant « Ne dis rien, ce n'est pas grave, je te pardonne » et la prend violemment dans les bras avant que l'autre ait eu le temps de dire quoi que ce soit. Un souffle rauque s'échappe de la jeune fille quand Anita étreint son corps avec brutalité.
« Oh, mais comme elle est gentille, cette petite !»
s'exclame la bijoutière. Et pendant que celle-ci comble la gêne par un flot de compliments, moins lancés à l'enfant qu'à la mère de l'enfant qui reste bouche bée et le cœur battant visiblement une chamade incompréhensible, Anita susurre à l'oreille de la jeune fille qui aurait beaucoup aimé les tuer si elle en avait eu les moyens
« Je suis plus forte que toi, Inès. Je suis beaucoup plus forte que toi. »
C'est une voix qu'Anita ne se connaissait pas qui a parlé. C'est quelque chose qui l'a traversé et a commandé sa bouche, mais sûrement que ce n'est que de la panique. Anita la lâche et met dans son regard et son visage encore poupon le plus de fermeté possible. Il faut croire que ça fonctionne. La jeune fille semble troublée, recule, murmure
« Pardon, je le ferai plus »
et réclame à sa mère de partir. Celle-ci ne se fait pas prier. Il y a quelque chose qui la met extrêmement mal à l'aise. Le ciel s'assombrit, ou peut-être que ce n'est qu'une impression. Le vent se lève, mais peut-être que ce n'est qu'une impression. Cette voiture passe coup sur coup à très grande vitesse sur la nationale. Catherine et sa fille sursautent à chaque fois. Anita et sa mère ne font pas le moindre mouvement. Catherine a comme une envie diarrhéique d'un coup, alors elle hurle presque en reculant vers sa voiture.
« Merci, au revoir, à bientôt, encore désolé pour les enfants, hein !»
Joe sourit à les voir se précipiter dans leur voiture. On dirait qu'elles ont envie de pisser, elle se dit. Et la berline disparaît aussi sec, comme un mirage estompé. Mais son cœur ne se calme pas pour autant, et le nœud au-dessus de son estomac ne semble pas vouloir se défaire. Il y a un pressentiment qui souffle son air d'acier sur la nuque de la mère d'Anita, installée sur ses épaules tendues comme un gros chat qui menace toujours de planter ses griffes sans le faire vraiment, et qui mordrait si on tentait de l'attraper par la peau du cou pour s'en débarrasser. Alors on attend qu'il veuille bien partir. Joe demande à sa fille.
« Qu'est-ce que tu lui as dit pour lui faire si peur ?»«
Il ne faut pas t'inquiéter, maman. Personne ne nous fera de mal.
Personne ne nous veut du mal, tu sais. »«
Je suis pas si sûr, moi. »
C'est la mère d'Anita qui a parlé à travers la bouche de l'enfant. Ce sont ses intonations, c'est même son expression, celle qu'elle utilisait face au mensonge pâteau.
« Oui, je me suis brossé les dents. »«
Je suis pas si sûr, moi. »«
Non, j'ai pas envie de faire pipi. »«
Je suis pas si sûr, moi. »«
Avec mamie, c'était un accident. »«
Je suis pas si sûr, moi. »
Anita est étonnée de ce qu'elle dit, au moment même où elle le dit. Elle lève la tête vers le visage de sa mère, et sa pâleur l'effraie. Joe est blanche, comme la mort. Ses yeux noisettes plantés dans les siens, cernés d'une inquiétude vibrante, écarquillés comme ceux des bêtes avant la fuite. Il y a quelque chose dans Anita qui fait peur à sa mère. La petite fille le comprend. Elle attrape vigoureusement la main en plastique et l'entraîne vers leur voiture en criant « Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux aller au cinéma !» de la voix la plus enfantine et la plus enjouée qu'elle arrive à trouver dans son répertoire. Alors un petit rire s'échappe de la gorge de sa mère et la couleur revient en même temps qu'elle court et trébuche vers la voiture, monte dedans dans une cacophonie joyeuse et part aussi précipitamment que les deux autres avant elle. Clémence, la petite sœur d'Inès n'arrive pas longtemps à retenir ses larmes. Elle a dormi beaucoup hier, beaucoup aussi cette nuit, parce que les sanglots l'épuisent, et dès le réveil, la boule lui est revenue dans la gorge. Elle a tout vu, vendredi. Elle a tout vu sa sœur et son amie prendre pour prétexte son anniversaire à elle, la petite, la mignonne, la si souriante, un peu gauche, mais tout adorable et pleine d'entrain. Sa poitrine s'est encombrée d'un poids inconnu et douloureux quand elle a compris, parce qu'elle comprend bien plus vite que ce qu'on veut bien penser, que sa grande sœur l'utilisait pour martyriser quelqu'un. Et pas n'importe qui. Anita. Elle le savait, Clémence. Elle le savait quand elles avaient fait la liste des camarades à inviter pour sa fête et qu'en pointant les têtes sur la photo de classe, elle était censée dire oui ou non et qu'elle disait oui pour tout le monde. Quand est arrivé le tour d'Anita, elle a eu un temps d'hésitation. Son père a dit « Bah, pourquoi pas elle ?» Et elle n'a pas eu le temps de répondre.
« Si, je veux bien qu'elle vienne, c'est juste que j'ai encore oublié son prénom. »
La grande est arrivée par derrière, lui a fait un gros bisou sonore sur sa joue rebondie. Elle fait ça à chaque fois qu'elle décide de prendre les choses en main sans qu'on lui ait rien demandé. Et a déclaré «
Ah, tu sais, papa, c'est la fille de la dame qui a... »
Elle a battu ses bras raides contre elle avec un sourire en coin, comme un pingouin ironique.
« Alors forcément, ça lui fait un peu peur. »
Et le père a dit « Ah !» Alors la grande a conclu
« Je vais lui parler demain à Anita, déjà pour voir si elle a envie de venir, parce que tu sais, hein, c'est une fille qui aime bien rester toute seule. »
Et la discussion était close. La grande repartait à ses devoirs, le père à la télévision, la mère faisait les comptes sur la table de la salle à manger, et Clémence sentait sa gorge se nouer, comme souvent, de n'avoir pas pu, su, trouver le moyen de dire ce qu'elle pensait, seule dans la cuisine, devant la photo de classe. Clémence est fatiguée et ses yeux sont lourds. Le médecin est venu la voir. Il est gentil et très grand, avec une voix étonnamment au perché.
Elle n'a pas de fièvre et son mal de tête vient sûrement du fait qu'elle pleure plutôt que l'inverse. Il faut la consoler du contact physique et des mots simples. Si ça dure trop longtemps, il faut l'amener voir un spécialiste.
C'est combien de temps, trop longtemps ?
Ah, je sais pas. Ça varie. Disons que si ça dure encore plusieurs jours, je vous conseillerais quelqu'un.
Il est parti après avoir récupéré son chèque et fait une ordonnance pour du paracétamol. Clémence pleure par intermittence, silencieusement. Parfois, son père s'en rend compte et la prend dans ses bras ou lui frotte gentiment la tête. Le bruit de la voiture entrant dans le garage la réveille de ses larmes, dans le canapé devant des dessins animés brouillés. Peut-être que sa grande sœur a fait la bonne chose et que tout va rentrer dans l'ordre, que sa culpabilité sera effacée par un pardon en bonne et due forme, comme sa mère fait parfois.
Tu as fait une ânerie, mais tu sais quoi, je te pardonne en bonne et due forme, ça veut dire que tout redevient comme avant.
Elle se poste dans le couloir de l'entrée et la porte s'ouvre brusquement. Sa mère et sa sœur entrent précipitamment avec des exclamations mêlées.
Oh, mais quel vent! Et d'un coup en plus, ça nous a surprises, on s'y attendait pas.
Trop d'exclamations, des voix trop haut perchées et pas de baguettes dans les mains alors qu'elles étaient censées aller à la boulangerie après être passées chez Anita. La petite comprend que les choses tournent mal. Au lieu des larmes coupables, cette fois-ci, c'est un cri qui se bloque au milieu de sa gorge. Les visages effrayés de sa mère et sa sœur, qui n'ont pas encore vu qu'elle avait un cri bloqué dans la gorge et continuent de s'exclamer, l'obligent à prendre le dessus sur sa détresse. Elle se force donc à rester impassible, et pour s'éloigner du spectacle, lance un innocent « Je vais faire chauffer du lait !» C'est la seule chose en cuisine qu'elle soit autorisée à faire pour le moment.
Ça s'est bien passé ?
Demande le père qui vient de descendre de son bureau et sans attendre de réponse, jette un coup d'œil amusé à la gamine concentrée qui verse le lait dans la casserole.
Dis ma puce, c'est pas trop l'heure de faire chauffer du lait, on va bientôt passer à table.
Le visage de la gamine quand elle se tourne vers lui, comme crispé de terreur, lui fait un drôle d'effet dans le sternum, comme un point de chauffe intense.
Non, t'inquiète pas, verse le lait, on va faire la cuisine à deux, on va faire un gratin dauphinois.
Gilles se précipite sur sa fille pour l'entourer de sa présence. Le visage se décontracte aussi sec et un sourire naît. Le point de chauffe dans le sternum paternel arrête d'être douloureux. La chaleur envahit sa large poitrine, douce et enivrante. La maison s'assombrit. Gilles regarde et voit que le ciel est lourd et noir d'un coup. Personne n'allume la lumière. Sa femme et la plus grande ont fini de se dévêtir et semblent hésiter sur quoi faire ensuite. Planté dans l'entrée.
Eh ben alors, ça s'est bien passé. Vous avez acheté du pain ?
Oh mon Dieu, ce vent !
Dit Catherine en plissant les yeux pour voir à travers la fenêtre de la cuisine les arbres du jardin ployés. Alors, un flash de lumière blanche, l'éclatement du tonnerre et la grêle qui se met à tomber. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.